Vous écoutez, on lit pour vous.
L'adieu au papier. Retour dans le futur? Point d'interrogation. Un texte signé Caroline Monpetit, publié dans Le Devoir du 20 avril 2026. Après avoir, pendant des siècles, rythmé nos vies et notre rapport aux nouvelles du monde, le journal papier tire tranquillement sa révérence dans nos maisons. Il se retire sur la pointe des pieds, cédant la place au vacarme de l'ère numérique et à son instantanéité. Guillaume Pinson, professeur de littérature à l'Université Laval, s'est penché sur l'histoire du journal papier francophone et y a trouvé des bouleversements qui ont ressemblé, en leur temps, à la révolution numérique actuelle. Il a développé ses parallèles entre deux révolutions, celle du journal papier omniprésent à partir du XXe siècle et celle d'aujourd'hui dans « L'adieu au journal » qui paraît aux éditions CNRS. Fatigue mentale et besoin de couper les liens avec l'actualité n'étaient pas étrangers aux consommateurs de journaux des siècles derniers. En 1884, le chroniqueur Octave Mirbeau, qui signait des chroniques dans « Le Gaulois », raconte les bienfaits d'un récent citation, « stage de déconnexion » fin de citation du flux des informations sur le monde. Citation, « Les hommes et les femmes du siècle dernier ont été complètement bouleversés quand ils ont vu le journal arriver », explique Guillaume Pinson en entrevue. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Pour eux, le monde a changé en quelques décennies. Le monde s'est transformé profondément. Fin de citation. La distribution massive du journal papier a, en son temps, rythmé le quotidien. Citation, il a imposé le rythme de la nouvelle, mais aussi le rythme de l'attention. Fin de citation. À l'inverse, l'autoroute numérique semble abolir le temps d'attente. Citation, elle abolit l'avenir, va jusqu'à dire Guillaume Pinson. Fin de citation. Le chercheur trace aussi un parallèle entre le fabuleux réseau de distribution des journaux papier de l'époque et l'autoroute numérique de l'information sur laquelle on navigue aujourd'hui. Au-delà des trains et des bateaux, puis des camions et des voitures, citation, qui se chargeaient tous les jours de lourds ballots de papier et les transportaient parfois à l'échelle du globe, fin de citation, certains chemins de fer et certaines lignes navales imprimaient leurs propres journaux gratuits à distribuer à bord. Guillaume Pinson s'intéresse particulièrement au réseau international des journaux francophones, sur lequel il a fait des révélations étonnantes. Ainsi, c'est à New York et non au Québec que se publiait un temps le journal francophone le plus important en Amérique au milieu du 19e siècle. Des journaux francophones en papier s'imprimaient par ailleurs à Pondichéry, en Inde, à la Louisiane, en passant par la Moldavie. Aujourd'hui, dans le contexte de l'autoroute numérique, où on passe en un clic d'un contenu en français à un contenu dans une autre langue et vice-versa, la langue française ne lui semble pas menacée outre mesure. Citation, les outils de traduction sont tellement performants, dit-il. On peut imaginer un système, finalement, où on va sur des sites étrangers ou des réseaux étrangers, mais où les contenus sont traduits instantanément. Peut-être qu'on va faire une espèce de retour à des langues maternelles. Fin de citation. Réaction et motive. Mais l'approche de Pinson est peut-être surtout originale parce qu'elle aborde la consommation d'informations par le biais de l'émotion. Ainsi, c'est en exploitant les émotions des lecteurs, dit-il, que les journaux se sont transformés au XXe siècle avec l'avènement de la chronique, du reportage de terrain et des faits divers. Citation, à partir de 1900, c'est vraiment une révolution culturelle complète, dit-il. Que ce soit à Montréal ou à Paris, tout le monde a accès à un journal et c'est ça qui a fondamentalement changé, là. C'est sûr qu'il y avait des gazettes au 18e siècle, mais pas dans une ampleur comme celle-là. Il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité que tout le monde soit un peu comme synchronisé culturellement sur un rendez-vous quotidien. Fin de citation. Il avance d'ailleurs que le malaise ressenti envers l'affluence des informations numériques est entre autres lié à notre difficulté à réguler nos émotions face à l'intensité des stimuli. Citation : Depuis 20 ans, on est dans une sorte de révolution qui présente des analogies, des éléments comparatifs. On est de nouveau plongé dans une transformation temporelle d'un flux encore plus frénétique. D'une certaine manière, on revit un peu ce qui a déjà été vécu, dit-il. Une sorte de désordre émotionnel et temporel. Fin de citation. Autre citation. C'est comme si aujourd'hui, on était un peu déboussolé sur le plan des émotions. On ne sait pas gérer cette multiplication du flux, cet entrelacement de régimes affectifs contradictoires. Les réseaux sociaux provoquent beaucoup de réactions en direct. Il y a une polarisation accompagnant ce support qui permet une espèce de réaction immédiate à ce qu'on voit. Fin de citation. Comme on le ressent devant nos écrans, le journal papier permettait d'éprouver de la colère tout en demeurant dans le calme de sa maison privée. Citation. Aujourd'hui, on fait appel à une intelligence cumulative plutôt qu'à une intelligence séquentielle, dit-il, fin de citation. Dans le cadre de ce genre de transformation, les frontières entre vie publique et vie privée se brouillent. L'âge d'or des journées de papier a d'ailleurs coïncidé avec l'apparition des journaux intimes. Citation, c'est paradoxal de nous rapprocher d'une certaine manière, mais en même temps de nous couper les uns les autres. Fin de citation. Guillaume Pinson pense aussi que de nouvelles formes journalistiques vont émerger du chaos présent. Citation, il y a de la place pour la création, pour de nouvelles idées, des nouvelles manières de faire. C'est ça qui est en train d'être expérimenté aujourd'hui. Fin de citation. Référence au livre objet de cette chronique. Le titre, L'adieu au journal, Guillaume Pinson, CNRS Édition, Paris 2026, 234 pages. Et c'est la fin de ce texte titré « L'adieu au journal papier, retour dans le futur, point d'interrogation », texte signé Caroline Montpetit, publié dans Le Devoir du 20 avril 2026.
Facque et Jeanne Mance entrent au dictionnaire Le Robert. Un texte de Caroline Montpetit paru le 12 mai 2026 dans Le Devoir. Facque, ça y est, on peut le dire. L'expression québécoise facque, on dit aussi fac, fec ou fake, contraction de ça fait que, qui signifie en langue orale de ce fait, alors, ou donc, est officiellement entrée au dictionnaire Le Petit Robert. Elle pourra donc y livrer une concurrence officielle à l'expression « du coup » couramment utilisée par les Français. On trouve aussi dans Le Robert 2026 le mot « tintamarre », également d'héritage canadien. Cette manifestation festive au cours de laquelle les participants défilent en faisant un charivari pour affirmer et célébrer l'identité acadienne. Côté nom propre, Jeanne Mance arrive au Petit Robert plus de 350 ans après sa mort, mais aussi les auteurs québécois bien vivants Michel Rabagliati et Wajdi Mouawad. D'ailleurs, la maison d'édition vient également de lancer une édition canadienne de son Robert Junior qui comporte des pages consacrées aux Premières Nations et qui parle aussi de cégep, de maringouin, de tuc et de rôti. Du côté du Petit Larousse illustré, dont l'édition 2027 sortira en juin, on a retenu les québécismes « claque » comme dans « meneuse » ou « meneur de claque », personne qui encourage les joueurs d'une équipe lors d'un match. Bouquetière, mot désignant la petite fille qui porte un bouquet lors d'un mariage, et réduflation, ce stratagème commercial qui consiste à réduire les quantités d'un produit plutôt que son prix. En entrevue, la directrice de l'édition chez Robert, Géraldine Moinard, explique que les choix des nouveaux mots dans le dictionnaire se font en partie avec des appareils de détection automatique et d'après les conseils de linguistes spécialisés. On regarde si le mot est fréquent, dans quel type de texte médiatique il apparaît, sur quels réseaux sociaux et à quelle fréquence, dit-elle. Ça va nous aider ensuite à déterminer son poids dans la langue française. Est-ce qu'il est bien implanté? Est-ce qu'il est assez fréquent? Est-ce qu'on le trouve dans des canaux employés par des personnes suffisamment différentes pour qu'il sorte d'un petit milieu et qu'il appartienne à la langue générale? Est-ce qu'il est durable aussi dans la langue française? Rattrapage de figures féminines. Au chapitre des noms propres, l'ajout de Jeanne Mance relève davantage d'une volonté de redonner aux femmes une place dans l'histoire. Dans le cas de Jeanne Mance, on pourrait dire que c'est un rattrapage puisqu'elle est décédée depuis 350 ans, poursuit Géraldine Moinard. Je pense qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont été oubliées dans l'histoire et dans les dictionnaires aussi. Il faut aussi reconnaître qu'on peut se rattraper et faire de la place à des gens qui ont été oubliés. En matière de noms communs, le Robert a aussi fait une place aux expressions « aide à mourir » et « suicide forcé » à Manosphère pour parler du réseau des masculinistes et à tourisme médical. Le petit Larousse illustré, lui, a retenu l'expression « créateur-trice de contenu »,« infopreneur-euse » qui désigne un professionnel auto-entrepreneur particulièrement, qui monétise ses connaissances, son expertise ou son expérience personnelle dans un domaine donné. On y trouve aussi désormais les mots « trumpisme » et « polarisation ». En avril 2026, on a appris que la dernière édition du multidictionnaire de la langue française, produit québécois, signé Marie-Éva de Villers, c'était quant à elle enrichi par exemple des mots « déconsommation »,« écofiscalité », »,« ploutocratie », »,« sylvothérapie », »,« bracelet anti-rapprochement », »,« obsolescence écologique », »,« terres rares » et « sobriété numérique », autant de termes témoins de l'ère du temps. Des questions à l'IA? Aux éditions Le Robert, on propose pour la première fois cette année un outil faisant usage de l'intelligence artificielle sur le site d'ICO en ligne, auquel on pourra poser des questions sur la langue. Ces réponses se baseront essentiellement sur la banque de données du dictionnaire Le Robert et devraient ainsi éviter les hallucinations dont souffrent certains autres outils d'IA. À cet égard, Géraldine Moinard mentionne une étude menée par des chercheurs suisses à l'aide de l'outil Alluard qui aurait détecté ce type de contenu erroné dans entre 30 % et 75 % des réponses des IA génératives les plus répandues. C'était FAC et Jeanne Mance entre au dictionnaire Le Robert. Un texte de Caroline Monpetit paru le 12 mai 2026 dans Le Devoir.
Les petites questions d'une vie. Un texte de Dany Laferrière paru le 1er mai 2026 dans La Presse. Être ou ne pas être, telle est la question. Shakespeare. Que faites-vous? Chaque individu est réduit dans sa vie, à une question, deux ou trois tout au plus, qui ne cesse de revenir comme un serpent de mer. Il arrive qu'un inconnu lui pose la même sempiternelle question en ignorant quel est le tag de sa vie. « Que fais-tu? » L'enfant doit répondre sans cesse à cette question qui lui semble bien difficile au début. Cela demande une capacité de description au-dessus de ses moyens. Ainsi, il a pris l'habitude de lancer sans se retourner « rien » ou « je joue ». Cette réponse n'est pas suffisante pour une mère avide de détails. S'il veut que celle-ci arrête de l'aiguillonner, il doit distiller dans sa réplique tout l'ennui du monde. Pour une mère, un enfant ennuyé n'est pas en danger. C'est la passion qui le rend assez intrépide pour enjamber la fenêtre. Quelques années plus tard, je me suis coltiné cette épineuse question. « Qui suis-je? » Elle vous colle à la peau comme une sangsue, alors qu'on ignore ce que ça veut dire. Ne pas s'inquiéter, car les meilleurs philosophes s'y sont cassés les dents. Si vous vous posez trop souvent une pareille question, c'est que vos problèmes matériels sont déjà réglés. Celui qui a vraiment faim ne pense plus qu'à cette seule chose, manger. La faim a encore gagné du terrain dans les quartiers pauvres de la ville. S'il vous arrive de n'avoir rien à manger, et c'est récurrent, on doit marcher des kilomètres pour trouver quelqu'un capable de vous offrir un plat chaud. La faim avale l'asphalte. D'où venez-vous? En quittant son pays, on ignore qu'on aura à faire face à une question qui détermine notre nouvelle condition. L'officier d'immigration triturait depuis un moment mon passeport quand il a fini par me demander d'où je venais. Comme ma nationalité était écrite en lettres capitales sur le dit passeport, j'ai attendu qu'il la découvre. Il voulait simplement me l'entendre dire. Mon silence est dû au fait que, quand on vient à peine de quitter son pays, ce n'est pas à lui qu'on pense. On essaie de visualiser ce qui nous attend dans les heures, les jours et peut-être les années à venir. Et chaque fois que je m'étonnais du fait que la question de mon origine revenait sans cesse, mon vis-à-vis s'attristait de mon agacement, car c'était la première fois qu'il la formulait, lui. Me voilà pris de vertige à l'idée de 8 millions de personnes faisant la queue pour me poser, en souriant, la même maudite question. Cette curiosité me semble aujourd'hui saine, car si on ne la posait plus, les gens se plaindraient qu'on ne s'intéresse pas à eux. De plus, c'est une entrée en matière qui ouvre la porte à de riches échanges. Sauf qu'en face, on comprend la question comme une frontière qu'on cherche à tracer entre celui qui accueille et celui qui arrive. Où êtes-vous? J'ai eu droit dans ma vie, ce qui est très rare, à une troisième question. Après le « Que faites-vous? » de ma mère, suivi du « D'où venez-vous? » de l'officier d'immigration, voici le « Où êtes-vous? » de l'homme de la rue. Je ne tiens pas compte du « Qui suis-je? » puisque personne n'a jamais su y répondre. Un homme me rattrape à l'angle des rues Saint-Denis et Chéri. « Où êtes-vous? Devant vous? » Il secoue la tête avant de préciser. « Où vivez-vous maintenant? Pourquoi vous me posez cette question? » À voir son air ahuri, je comprends qu'il ne s'attendait pas à ce que je lui réponde par une question. « Vous êtes connu, vous? » Est-ce une raison pour franchir, sans un simple bonjour, la porte de mon intimité. « On ne vous voit plus !» ajoute-t-il. Il me fixe droit dans les yeux, comme pour me faire comprendre que c'est un fait. On dirait ma mère, quand elle ne m'avait pas vue de toute une demi-journée. « Où me voyiez-vous avant ?»« À la télé. » »« La télé n'est pas un endroit pour vivre. » »« Je suis votre parcours depuis le début. » Vous lisez beaucoup, alors. Vous n'êtes plus à Miami? Jette-t-il pour éviter ma question. J'ai quitté Miami depuis 2002. On me l'avait dit, fait-il cette fois avec un vague sourire. Je crois comprendre qu'il suit mes déplacements sur la carte comme si j'étais une armée en déroute. Vous êtes à Paris, là? Si j'étais là-bas en ce moment, nous n'aurions pas pu avoir cette conversation. Il devient rouge de colère. Ne jouez pas sur les mots, hurle-t-il presque. Je n'ai fait que ça toute ma vie, dis-je en partant, déjà en retard à mon rendez-vous. Je suis sûre de le recroiser quelques années plus tard, ici même. Peut-être qu'il me reprochera alors de passer trop de temps à Buenos Aires, pas loin de Borges ou au Japon de Basho. C'est dans les livres qu'il faut me chercher. La promesse. À la première interview accordée à la presse en avril 1986, j'ai affirmé ceci. Je ne suis pas un écrivain noir, un écrivain haïtien, un écrivain immigrant. Par contre, je suis noir, je suis haïtien, je suis immigrant. C'était, à mes yeux, un refus net de toute forme d'assignation. Plus loin dans la même interview, j'ai ajouté « Le plus important, c'est d'écrire, de devenir un écrivain de telle manière que les questions de couleur, de race, d'origine ne se posent plus. J'ai tenu ma promesse contre tous ceux qui veulent réduire la littérature à une simple question des origines. Le titre de l'article étant « Je veux m'emparer du monde ». Un pied de nez à tous ceux qui voudraient me confiner dans un lieu unique. Il paraît que, quand j'étais enfant, ma mère avait de la difficulté à me garder à la maison, même durant un couvre-feu. De retour à Port-au-Prince, après une absence d'une dizaine d'années, je ne cessais de m'excuser, tandis que ma mère souriait en me caressant la main. « J'ai toujours su que tu avais les pieds poudrés, » murmure-t-elle. « Les pieds de ceux qui sont souvent sur la route, mais qui reviennent finalement au bercail. Cela fait un demi-siècle que je vagabonde dans le monde. » C'était « Les petites questions d'une vie », un texte de Dany Laferrière, paru le 1er mai 2026 dans La Presse.
La guerre au Moyen-Orient fait grimper le prix des condoms. Un texte de l'agence France-Presse paru le 24 avril 2026 dans Le Devoir. Le prix de produits en caoutchouc ont grimpé en flèche en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées à la guerre au Moyen-Orient, ont annoncé le plus grand fabricant de préservatifs au monde et un important fabricant de gants, tous deux basés en Malaisie. L'entreprise Carex, qui fournit des préservatifs pour des marques comme Trojan et Durex, a indiqué avoir dû augmenter ses prix jusqu'à 30 %, tandis que le fournisseur mondial Top Glove a déclaré que le coût du principal matériau utilisé pour la fabrication des gants en caoutchouc synthétique avait doublé. Une grande partie de l'industrie du caoutchouc en Malaisie dépend du pétrole pour produire des biens. Mais l'approvisionnement est difficile depuis que l'Iran a imposé une fermeture du détroit d'Ormuz par où transite, en temps normal, environ 20 % du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié mondiaux. Nous subissons des délais de livraison plus longs de la part de nos fournisseurs, une volatilité accrue des prix et une hausse des coûts de fret, a déclaré le directeur général de Carex, Gomia Kiat. En attendant, nous stockons également davantage de matières premières clés, essentielles au fonctionnement de l'entreprise, ce qui nous oblige à augmenter les coûts jusqu'à 30 %, a déclaré M. Go à l'AFP dans un courriel. Un matériau brut essentiel touché, l'huile de silicone, est utilisé dans chaque préservatif, a indiqué Carex. Carex fabrique plus de 5 milliards de préservatifs par an, contribuant à prévenir les grossesses non désirées et les maladies sexuellement transmissibles dans le monde entier. L'entreprise fournit des préservatifs à des organisations telles que le National Health Service britannique et l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Les prix d'autres produits de Carex ont également augmenté, comme les lubrifiants intimes, les gaines de cathéter et les emballages en aluminium, a indiqué le directeur général. Les coûts ont été affectés dans tous les domaines, y compris les prix du nitrile, un polymère dérivé du pétrole destiné aux préservatifs et du caoutchouc naturel. Top Glove, l'un des principaux fabricants mondiaux de gants en caoutchouc, a déclaré avoir été particulièrement touché par une forte hausse du prix du caoutchouc nitrile butadiène synthétique qui a augmenté de plus de 100 % reflet d'une offre tendue. Pour les gants en caoutchouc naturel, les coûts d'approvisionnement ont augmenté d'environ 30 %, le caoutchouc naturel étant une matière première cotée, influencée par la tendance haussière des prix du pétrole brut, a ajouté l'entreprise. Top Glove fournit 95 milliards de gants par an à plus de 2000 clients dans le monde. Les deux fabricants ont indiqué que l'approvisionnement de leurs principaux produits restait stable. Toutefois, des délais de livraison plus longs entraînent des stocks plus faibles chez nos clients et certains fabricants de préservatifs rencontrent des difficultés de production, a déclaré M. Go de l'entreprise Carex. C'était La guerre au Moyen-Orient fait grimper le prix des condoms. Un texte de l'agence France Presse, paru le 24 avril 2026 dans Le Devoir.